Code Floss wie Éthique, de Père Marie, Dominique Philippe, le 24 mai l'an 2000, à Saint-Jodin.
Aux questions posées. Dans l'activité morale, peut-on distinguer deux moments, deux regards, la saisie immédiate de la détermination exercée par la finalité, la saisie du moyen, du bien particulier, commandé par un objet. Oui, deux moments. C'est l'analyse que nous faisons. Cette analyse sera forcément la distinction entre le bien fin et le bien moyen. Vous voyez, l'analyse de la finalité et du moyen est analogue à la spéculation, à la saisie de la substance et de l'accident, au point de vue spéculatif, point de vue métaphysique. Ou bien est-ce seulement une distinction dans l'analyse ? C'est une distinction dans l'analyse. Et une distinction dans l'analyse, concrètement, représente deux actes différents. Mais c'est nécessairement une analyse, et même c'est un moment extrêmement important. Je ne peux pas établir de philosophie éthique sans avoir fait la distinction entre la fin et le moyen. C'est ce que nous verrons. C'est facile de regarder l'autre autant qu'il nous sert de miroir et on se regarde soi-même. C'est facile de dire « je t'aime » quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'amour. Si on le vit, on le sait. On le sait d'une façon d'abord confuse. L'analyse de l'amour est une chose très délicate, mais il y a quand même un premier amour et on a conscience d'aimer. Donc on sait pratiquement et non pas spéculativement. C'est facile de prétendre quand on n'est pas vrai. Comment apprendre à ne faire pas de l'amour, une autonomie ou efficacité. Comment apprendre à aimer l'autre quand on a peur de sortir de soi et d'être soi-même, d'être vrai. C'est vrai, l'éducation de l'amour est une éducation pour arriver à sortir, du moins à distinguer l'amour véritable, l'amour spirituel, aimer l'autre pour lui, et s'aimer dans l'autre. Ça, c'est passionnel. Vous voyez ? Donc, c'est arriver à distinguer l'amour commandé par le point de vue imaginaire et passionnel, et l'amour spirituel qui naît à partir de la connaissance d'une fin, d'un bien qui nous attire. Alors, ça, c'est l'éducation progressive. Et la philosophie présuppose cette éducation. C'est deux choses différentes. Hein. Le philosophe éduque dans le point de vue de la philosophie pratique, en montrant la vérité, donc en présupposant toute cette éducation. C'est pour ça qu'Aristote dit qu'un jeune homme de 20 ans, 19 ans, ne peut pas faire de l'éthique, il est trop passionné. Alors, pour nous, c'est différent, parce que le point de vue chrétien mûrit, Et c'est très vrai, ce que dit la constatation, c'est que un jeune qui est entièrement dans ses passions ne peut pas comprendre ce qu'est l'intention morale. Difficilement, très difficilement, ne peut pas comprendre ce que c'est que l'acquisition des vertus. Alors, distinguons toujours l'éducation pratique, c'est présupposé à la philosophie. Oui. Ne peut faire la philosophie que ceux qui ont une expérience de l'amour véritable, d'un amour réel. Si c'est un amour passionnel, vous êtes en dessous de la morale. Vous êtes passionné. C'est très bien d'être passionné. Et vous êtes passionné, attendons que la passion soit dépassée et qu'on arrive à distinguer la passion de l'amour spirituel. Dans la passion, vous ne faites pas de distinction entre la fin et le moyen. Absolument pas. Vous aimez, faites-vous. Et si vous commencez, si quelqu'un vient vous dire « Mais fais attention, ce n'est qu'un moyen », vous l'enlevez une bonne gifle en disant « Je l'aime, c'est tout. » Je ne sais pas ce que c'est, toi. Parce que la passion est aveugle. Elle nous aveugle, les gens. Et des gens qui sont vraiment passionnés, allez leur faire la morale. C'est tout à fait inutile. C'est pas la peine. Et c'est... On ne peut pas... Et ça arrive souvent, ça. Qu'on fait la morale à quelqu'un qui est passionné, c'est pas la peine. De faire la morale à quelqu'un qui est passionné, on sait qu'il est passionné, puis tout. Alors, on essaie de lui faire comprendre ce que c'est que la passion. Et c'est déjà beaucoup. S'il arrive à comprendre ce que c'est que la passion, qu'il peut y avoir un autre amour caché. Parce que la passion, tout le monde a l'expérience de la passion, quoi, j'espère. Si on n'a pas l'expérience de la passion, c'est triste. Mais on n'arrive que petit à petit arriver à discerner la passion et l'amour spirituel. Ah, ça, c'est vrai. Oui, la distinction qu'Aristote dit, qu'on arrive lentement à distinguer l'imaginaire de l'intelligible. Et que c'est une distinction qui est très importante. Tant que vous n'avez pas distingué l'imaginaire et l'imaginé et l'intelligible, vous ne pouvez pas faire de philosophie. Vous faites un roman. Vous faites un roman. On peut faire un roman. On peut écrire très vite son roman. Chacun d'entre nous, nous avons notre roman. Dans toute notre vie de jeunesse. Donc on fait la distinction. En philosophie, vous commencez à distinguer l'imaginaire de l'intelligible. Et quelqu'un qui n'a pas compris la distinction entre l'imaginaire et l'intelligible, ben celui-là, il ne peut pas entrer en philosophie. Il n'est pas encore entré, vous voyez. Il va entrer, mais il n'y est pas encore. Vous voyez ? Alors, il y a un peu la même chose du côté affectif. La passion se nourrit de l'imaginaire. L'amour spirituel se nourrit l'intelligible. Oui. Et c'est plus difficile de faire la distinction du côté affectif que du côté proprement intelligible. Autrement dit, c'est plus facile de distinguer l'imaginaire et l'intelligible que de distinguer l'amour passionnel et l'amour spirituel. Toujours, l'affectivité est moins claire. Beaucoup de personnes, vous verrez, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce que les jeunes sont éduqués par le cinéma, par la télévision, par tout ça. Et c'est très difficile pour eux de faire la distinction entre l'amour passionnel et l'amour spirituel. Ils n'ont pas beaucoup d'exemples devant eux d'amour spirituel. Ils voient toujours l'amour passionnel. L'amour passionnel... C'est la violence, c'est la domination, c'est l'amour passionnel. Or, notre monde est gouverné la plupart du temps par la passion et non pas par l'intelligence. Quand vous gouvernez en fonction de l'efficacité, mais vous ne gouvernez pas au niveau de l'intelligibilité, vous gouvernez au niveau passionnel. Il faut bien remarquer que notre monde, qui a été chrétien, qui ne l'est plus, c'est très difficile pour lui de retrouver le point de vue moral. C'est très difficile. Et la plupart du temps, on est dans l'imaginaire et la passion. Alors, on doit soi-même arriver à distinguer ça. Arriver à faire cette distinction-là. C'est cette auto-éducation. Hein. La première auto-éducation pour nous, c'est distinguer la passion de l'amour spirituel. Alors, au point de vue chrétien, on y arrive beaucoup plus vite. Parce que l'amour passionnel vis-à-vis de Dieu, ça dégringole vite. On ne voit pas. On l'imagine peut-être, oui, on peut se l'imaginer et l'aimer passionnément. On peut aimer passionnément Jésus. Marie-Madeleine a aimé passionnément Jésus, ça sûrement. Et puis petit à petit, ne me touche pas. Jésus est arrivé à lui faire montrer l'amour spirituel. Et sûrement, la croix a été une chute terrible au point de vue passionnel. C'est pas inquiétant, hein. C'est pas inquiétant d'avoir des difficultés dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pas inquiétant d'avoir une difficulté énorme de distinguer l'amour passionnel de l'amour spirituel. Mais ça doit se faire. Qu'on ait plus de difficultés dans le monde d'aujourd'hui qu'il y a quelques années, 100 ans, 200 ans, c'est normal. Et parce que les philosophies idéalistes qui nous entourent, qui nous enveloppent, n'arrive pas à distinguer l'amour spirituel et l'amour passionnel. Vous voyez, chez Platon, qui représente quand même le grand idéaliste avec de la noblesse, de la grandeur, vous distinguez très difficilement Eros de Philia. Et c'est la première chose qu'Aristote fait, de distinguer l'amour passionnel et l'amour spirituel dans l'amitié, dans la philia. Et c'est sans doute à cause de ça que pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est tellement important de comprendre, dans notre auto-éducation, de comprendre les exigences de la philia pour bien, au point de vue humain, au point de vue divin, la distinction se fait tout de suite, mais au point de vue humain, de bien distinguer la passion de l'amour spirituel. Mon père, au dernier cours, vous avez dit un bien, quand il est trop proche, il s'use, il n'attire plus. Pouvez-vous reprendre cela ? Est-ce vrai pour le bien spirituel? Non, pour le bien spirituel c'est différent, mais je ne suis pas à faire un cours de père maître. Nous faisons un cours de philosophie. Donc, je parle au niveau philosophique. Je ne parle pas au point de vue spirituel. Il y a une distinction quand même. Hein. Nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, puisque la grâce ne supprime pas la nature, nous regardons le point de vue de la nature. Donc ce que je vous dis est d'ordre du philosophe, d'ordre de la morale humaine fondamentale. Et au point de vue surnaturel, c'est différent. C'est la charité. Venez. Et la charité regarde le Christ. Et le Christ vient nous éduquer merveilleusement pour faire toutes ces distinctions. Et nous les faisons beaucoup plus vite dans l'ordre surnaturel. Mais il est bon, il est même nécessaire de les faire au plan naturel. Oui. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Donc il est humain de distinguer, c'est humain de distinguer l'amour passionnel de l'amour spirituel. Alors, je parlais là au niveau philia, par exemple, au niveau de l'amitié. Il faut bien distinguer le respect de l'autre dans l'amour d'amitié. Et quand il n'y a plus ce respect de l'autre, l'amour d'amitié tend à disparaître. Vous voyez ? Il est trop proche. Au point de vue psychologique, c'est qu'on dit un amour fusionnel qui fait qu'on n'a plus le sens de l'autre, on n'a plus le respect de l'autre. Parce que dans l'amour d'amitié, plus on aime l'autre, dans l'amour, ouais, plus on le respecte. Et toujours. Parce que l'autre, c'est l'autre. Et c'est une personne dans l'amour d'amitié. Et plus on l'aime, plus on respecte sa personne. Dans l'amour surnaturel, c'est la même chose, mais c'est impliqué dans la charité. La charité fait que on aime l'autre dans la lumière de Dieu. Et c'est Dieu qui nous respecte le plus. Personne ne nous a respecté autant que Dieu. On a envie de temps en temps de dire à Dieu, respectez-moi moins. Parce qu'il nous laisse la liberté. Dieu nous laisse toujours la liberté. Tandis que l'autre, si l'amitié, l'amour d'amitié n'est pas et ne demeure pas toujours spirituel, on veut dominer l'autre. Faire passer sa volonté sur l'autre. Oui. Là, c'est ça que je voulais dire. Donc, dans l'ordre surnaturel, la charité fait aimer l'autre dans la lumière de Dieu. Et donc, plus on l'aime, plus la lumière de Dieu est présente. Et plus on le respecte. Personne ne nous a autant respecté que Dieu. Ça, vous pouvez le saisir. Et donc, dans l'amour d'amitié surnaturel, on a ce respect de l'autre. Dans l'amour humain, il n'y a pas ce respect de Dieu. C'est l'autre. En terminant le cours du métaphysique, vous nous avez parlé du secret comme de l'analogue de la substance en éthique. L'autonomie du point de vue moral, c'est le secret de l'ami. C'est la personne. L'ami, c'est mon secret. Vous nous avez dit aussi que le secret de l'ami est la première stabilité en éthique. Que sont cette stabilité et cette autonomie dont l'amitié est source par le secret ? C'est le respect de l'autre. Et le respect de l'autre donne la stabilité, parce que s'il n'y a plus le respect de l'autre et qu'il n'y a plus que l'amour passionnel, vous l'aimez pour vous. Et donc, il doit vous être entièrement relatif et totalement relatif. À ce moment-là, vous respectez plus l'autre. Il n'a plus d'autonomie. Et alors on dira psychologiquement c'est fusionnel. Et c'est pas le véritable amour, ça se détruit. Pourquoi est-ce dans le secret que l'ami est source et pas simplement dans l'amour réciproque qui l'unit à son ami? Dans l'amour réciproque, quand cet amour réciproque est bien vécu, l'autre est toujours le secret. Il a son autonomie. Il a son autonomie. Et il est mon secret dans la mesure même où je le respecte. Autrement, il n'est plus mon secret. Je l'absorbe. Il devient ma nourriture. Et je l'absorbe. Tandis que s'il est mon secret, je le respecte. Un secret est quelque chose qu'on respecte dans sa réalité, dans son autonomie, dans ce qu'il a d'autre. L'ami, je le respecte dans la mesure où il est autre. C'est ça, l'ami est mon secret, il est autre. Et je respecte cette altérité. Je respecte qu'il y a donc en lui quelque chose que je n'arriverai jamais à connaître. Il n'y a que Dieu. Dieu seul. L'autre est autre. Et donc il a son secret. Et il est secret pour moi. C'est très mystérieux le secret. Le secret, c'est respecter quelque chose qui est plus que ce que j'assimile, que ce que je connais. Il y a dans le secret quelque chose qui m'échappe et qui ne m'échappera pas tout le temps, qui sera plus que ce que je peux saisir de lui. Et c'est dans ce sens-là qu'un secret, vous le respectez. Alors je continue. Je disais la dernière fois en terminant que il n'y a pas de morale, d'éthique, sans un amour spirituel. Tant que je reste uniquement dans la passion, il n'y a pas de morale. Il y a un jeu des passions. Et le jeu des passions, c'est une stratégie militaire. C'est une stratégie merveilleuse de l'araignée qui met sa toile d'araignée et qui inspecte. J'attends qu'il tombe dedans. Et dans les passions, c'est comme ça. Il y a une rivalité constante dans les passions. Donc, c'est pas l'ami. Et on maintient cette rivalité, cette tragédie, cette espèce de combat. C'est très étonnant, ça. Et saint Thomas a un article sur le Christ en montrant qu'il n'y avait pas de contrariété en lui. Pour montrer que jamais Jésus vivait au niveau passionnel. Quand on vit au niveau passionnel, on maintient la tragédie. La tragédie est un lieu dans lequel on peut être victorieux et on peut se manifester. S'il n'y a plus de tragédie, il y a l'amour spirituel. Et l'amour spirituel est paisible. Donc l'amour spirituel fait qu'on s'efface devant l'autre. Tout est paisible. Dans l'amour passionnel, on ne s'efface pas devant l'autre. On domine. Et on veut être victorieux. La passion maintient l'opposition, la tragédie. Alors, la philosophie ne commence, la philosophie éthique. Je ne peux réfléchir sur mon activité morale qu'à partir d'un amour spirituel. Cet amour spirituel porte sur un bien. Et ce bien est considéré comme un bien absolu et non pas comme un bien relatif à un autre bien. Tant que ce bien est saisi comme un bien relatif à un autre bien, c'est un moyen. Et donc l'amour que j'ai pour ce bien n'est pas un amour parfait, un amour absolu. Tandis que quand j'aime vraiment une personne, parce que c'est justement une personne, il n'y a qu'une personne qui est un bien absolu. Quand vous aimez une personne à cause de ses yeux, quand vous aimez une personne parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est touchante, parce qu'elle est très tendre, c'est relatif. Ça reste un amour passionnel. Aimer la personne pour elle-même, c'est différent. Là, il y a un absolu qui s'impose à moi. Donc, l'éthique commence à partir d'un bien spirituel absolu. C'est très curieux. Et ça, c'est très important. Il y a donc cette espèce d'auto-lucidité dans mon amour. Je sais que cet amour spirituel touche la personne de l'autre. Et c'est donc un amour absolu. Je dépasse toutes les manifestations extérieures, sa beauté, son élégance, son intelligence, toutes les choses extérieures qui peuvent être des particularités, qui existent, je ne les nie pas, mais je les dépasse et j'aime la personne. Et ça, c'est très important de comprendre cet absolu d'un amour spirituel qui porte sur un bien absolu. Quand je dis un bien absolu, c'est-à-dire un bien qui n'est pas relatif. Tandis que lorsque je suis en face d'un bien relatif, ce bien conduit à un autre bien. J'aime cette personne en fonction de ses qualités relatives. Et je compare alors, vous voyez, tant que vous comparez, vous n'aimez pas d'une façon absolue. Votre amour reste passionnel. C'est très curieux. Et c'est peut-être l'indice le plus manifeste que nous avons. Quand j'aime un bien relatif, je le compare à un autre. Quand j'aime quelqu'un d'une manière absolue, je ne compare plus. Ça n'a plus aucun sens de comparer. C'est cette personne que j'aime, c'est tout. Et cet amour porte sur le bien absolu. Tandis que toute comparaison rend ce bien relatif. Plus ou moins. Et ça, c'est facile à saisir quand on compare. L'amour ne compare pas. L'amour répugne à la comparaison. C'est l'intelligence qui fait des relations. Et donc, dans un amour relatif, l'aspect connaissance dépasse le point de vue de l'amour. Et je compare. L'amour, il est l'amour. Il est absolu. Quand j'aime d'un amour absolu, je sais que j'aime un bien pour lui-même et uniquement pour lui. Et il n'y a pas de place à la comparaison. Je l'aime pour lui-même. C'est tout. Et à ce moment-là, ce bien devient ma fin. Vous voyez ? La finalité n'est jamais première. Elle implique une réflexion sur la qualité de cet amour. Tandis que l'amour tout simple, c'est l'amour. Mais je réfléchis sur cet amour. Est-ce que cet amour est mon absolu? Si cet amour est mon absolu, c'est parce que la personne que j'aime, je la considère comme une personne bonne en elle-même et pour elle-même. Et c'est elle que j'aime. À ce moment-là, mon amour pour ce bien va se transformer en une intention de vie. Et c'est la finalité qui commence. Autrement dit, il y a une distinction très importante à faire. La première distinction, le bien absolu, le bien relatif. Et dans le bien absolu, comprendre que le bien absolu, je peux l'aimer pour lui-même et tous les autres, je les aime en fonction de lui. Quand je commence à aimer l'autre et tous les autres en fonction de lui, ce bien devient ma fin. Donc, la finalité, le bien fin, est toujours l'œuvre d'un amour qui est éclairé par l'intelligence, qui est conscient par l'intelligence. Ce n'est pas un amour spontané. L'amour spontané, c'est l'amour, tout simple. Et cet amour spontané devient un amour réfléchi quand je saisis que ce bien finalise tous les autres biens et que les autres biens sont aimés en fonction de celui-là. Je passe à ce moment-là du bien à la fin. Le bien comme tel attire et suscite d'un amour. Et ça, c'est tout à fait premier, c'est tout à fait radical. Et ce bien absolu va causer en moi, va réaliser en moi une intention de vie. Voyez. Autrement dit, soyez très attentifs à la différence de l'amour et de l'intention de vie. Parce que à ce moment-là, vous faites la différence entre le bien et la fin. Une fin engendre toujours en moi une intention de vie qui fait que j'ordonne tout, mes autres activités, mes autres manières d'aimer, à cette manière d'aimer ce bien absolu. Vous voyez, ce qu'on a appelé l'âge de raison, c'est en réalité quand on a été capable de passer de l'amour tout court, on aime, j'aime plutôt, à un amour qui finalise ma vie, un amour qui ordonne toutes mes activités dans ce but, dans cette fin. Et l'activité morale, l'éthique, commence lorsque j'ai en moi réalisé une intention de vie. S'il n'y a pas d'intention de vie, il n'y a pas de morale. Je suis un être qui aime, plutôt. Ne me parlez pas de morale. J'aime. Mais j'aime sauvagement. j'aime celui-là, celle-là, j'aime. Et ma vie est momentanée. C'est comme ça que vous avez des hommes qui ont 36 amours. Impossible d'avoir la morale. Il n'y a pas d'intention de vie. Et ça, c'est capital. Oui. Alors quand on dit que l'enfant à 7 ans, 8 ans, à 6 ans, a une intention de vie, oui, ça, c'est la vie chrétienne. Pour avoir une intention de vie au plan moral, au plan humain,